Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
« 25 000 emplois perdus », c'est comme ça que le magazine économique Challenge présente l'histoire. 25 000 cadres payés 150 000 dollars par an étaient censés venir s'installer à Long Island City, un quartier populaire du Queens, le long de l'East River, la plus belle vue sur Manhattan. 25 000 personnes devaient venir travailler là, dans l'ex-futur QG d'Amazon, plus les emplois dérivés, c'est-à-dire près de 40 000 emplois bien rémunérés, près de 30 milliards de dollars de revenus supplémentaires, a défendu et détaillé le gouverneur démocrate de New York, Andrew Cuomo, qui a tout fait pour attirer le géant de la vente en ligne dans son fief. Et pourtant, après des mois de tractations plus ou moins secrètes et de combats très médiatiques, en février 2019, Amazon et son patron, homme le plus riche du monde, renoncent à leur implantation new-yorkaise. Que s'est-il passé? Comment une telle manne a-t-elle pu s'échapper? Et pourquoi? Voilà comment Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, la très jeune et très démocrate députée de New York, a résumé sur Twitter la situation. Tout est possible. Aujourd'hui, un groupe de New-Yorkais déterminés et leurs voisins ont vaincu la cupidité d'Amazon, son exploitation des travailleurs et le pouvoir de l'homme le plus riche du monde. Fin de citation. Parmi les opposants, pas seulement des riverains, mais aussi plusieurs élus au conseil municipal, dont le milliardaire Jimmy Van Bramer. En cause, le risque de gentrification, d'envolée des loyers, le probable départ des habitants aux revenus très modestes, peu à peu exclus des écoles, des commerces plus à leur portée et finalement chassés de ce nouveau quartier yuppie ou bobo. Certains aussi se sont insurgés contre les quelques 3 milliards d'avantages fiscaux promis à Amazon, sans parler du risque de transport public saturé. La bataille est devenue symbolique, le géant contre les riverains, le grand capital contre les petits commerces et la victoire encore plus idéologique. Tout de suite, à Fournaise, dans le Gard, Amazon a aussi un gros projet et des tas d'emplois à la clé. Ça se passe à quelques kilomètres du pont du Gard et au début, personne n'a rien vu venir. Et peu à peu, un vent de fronde a commencé à se lever, comme le raconte Rémi Dibowski-Douette.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe à Fournaise, en bordure de la Neuf, entre Nîmes et Arles. Fournaise, c'est un village de 1000 habitants, en pleine garrigue, à 4 km du pont du Gard. Un point stratégique sur une carte, entre Espagne, France et Italie. Et ça a son importance. Car en France, depuis 2007, Amazon, le géant du commerce en ligne, multiplie les constructions de hangars gigantesques comme une toile d'araignée tissée sur le territoire. Le but, c'est d'installer un ensemble d'entrepôts pour y stocker tout et n'importe quoi, et le livrer n'importe où, en une journée. À Fournaise, les habitants se sont résignés.
Alors, bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Alors, votre maison, elle n'est pas très loin du futur entrepôt d'Amazon, vous le saviez
non.
Ça
ben oui, je sais, j'imagine, je vais souvent promener aussi dans le coin, du côté des pompiers. Personnellement, moi ça ne me dérange pas du tout. Et je ne me suis pas plus renseignée que ça parce que moi, je ne me sens pas gênée. Donc, j'ai dit, ils vont le faire. C'est une fatalité que nous sommes à une sortie, une entrée d'autoroute. Et comme vous savez, toutes les sorties et entrées d'autoroute possèdent des zones industrielles et commerciales.
Il y a encore peu de temps, tout le monde ici était à peu près d'accord avec cette dame.
De toute façon, Amazon le fera.
Amazon allait arriver, c'était une affaire entendue. Un entrepôt dans la garrigue, ce ne serait pas si terrible. Et on irait se balader ailleurs. Et puis au fond, à Noël, on est bien content de commander des cadeaux sur Internet. Alors il faut bien qu'Amazon s'installe quelque part.
Comment vous avez été informé de la présence d'Amazon ici?
Moi, au départ, par Léondi et par la pancarte qui s'y est mise et où on a appris que la mairie avait vendu le terrain à Amazon.
En fait, ce n'est pas à Amazon que la mairie a cédé le terrain, mais à Argan, un promoteur immobilier chargé ensuite de mettre la plateforme à disposition d'Amazon. Tout ça s'est passé très rapidement et dans une discrétion absolue. La mairie de Fournes a accueilli le projet avec enthousiasme. Le permis de construire a été délivré et le 14 novembre dernier, le préfet a signé l'autorisation définitive. Les pelleteuses n'avaient plus qu'à se mettre au travail.
Est-ce que vous connaissez ces dimensions à ce bâtiment ?
Oui, mais visuellement, je ne les imagine pas. Mais enfin, ce ne sera pas plus grand que l'usine Vuitton-Ball qui est pas loin. C'est 2-3 étages, c'est ça ? Dans tous les pays, dans toutes les régions, il y a des tas de choses pas belles. Ben, c'est le progrès. Hein. Le progrès n'est pas bon, monsieur.
Non. Et est-ce que vous irez encore vous balader de ce côté-là ?
Ben, on ne pourra plus.
En me quittant, cette dame m'explique aussi que si ça se trouve, l'arrivée d'Amazon, ça fera du bien à tout le monde. Dans le Gard, le taux de chômage est de 15%, bien au-dessus de la moyenne nationale.
Il y a quand même pas mal de jeunes qui sont régulièrement au chômage ou qui trouvent rien du tout, quoi.
Cette dame, c'est Viviane, une autre habitante.
Ici, c'est assez dur l'emploi. Les gens se plaignent beaucoup. Essentiellement, c'est, comme je disais, c'est des petits boulots d'été, des saisonniers. Et le reste du temps, il n'y a pas grand-chose, quoi.
Vous savez à quoi il va ressembler, ce bâtiment ?
De ce que j'ai pu entendre, ça sera un bâtiment un peu comme une usine, mais assez, ce ne sera pas un bâtiment haut qui prendra tout l'espace au niveau du visuel et qui sera quand même un peu à fleur, ce qui va quand même rentrer dans le cadre des vignes de la garrigue.
Voilà où on en est au printemps dernier de l'implantation d'Amazon à Fournes. Tout est prêt pour que les travaux démarrent. Personne n'a vraiment rencontré de représentant d'Amazon. Les habitants ignorent absolument ce qui les attend, mais pendant le confinement, les choses prennent soudain un tour inattendu. Une poignée de riverains qu'on n'avait guère entendu jusque-là se met en tête de barrer le chemin de Jeff Bezos, patron d'Amazon et accessoirement homme le plus riche du monde. Ils sont déterminés, Amazon ne s'installera pas à Fournes. Ils se regroupent en associations et parviennent à déposer, au beau milieu du confinement, une multitude de recours auprès du tribunal administratif de Nîmes. La démarche suspend de fait le premier coup de pioche d'Amazon. Les motifs des recours administratifs sont nombreux, mais en résumé, les requérants estiment que l'équipe municipale a fait preuve d'un excès de pouvoir, que tout s'est décidé en catimini, sans transparence ni réelle consultation des habitants.
La mairie de Fournes vous remercie de votre appel et vous demande...
Mairie de Fournes, bonjour.
Oui, bonjour, pourrais-je avoir le maire, s'il vous plaît ?
Pour comprendre tout ça, j'appelle le maire de Fournes.
Monsieur le maire.
Il s'appelle Thierry Boudinot. Il vient d'être élu, mais il faisait déjà partie de l'équipe précédente. Il était donc aux premières loges de la validation du projet Amazon.
Bon, il n'est pas en mairie, mais je peux lui laisser un message ?
Comme le maire n'est pas joignable, j'appelle un autre élu. C'est Damien Adam. Il est député LREM et dans sa circonscription en Seine-Maritime, Amazon souhaite installer une plateforme de 120 000 mètres carrés. Lui n'y voit que des avantages.
Si vous voulez, ma position sur Amazon, mais qui n'est pas d'ailleurs une position uniquement sur Amazon, mais qui est sur une position sur l'ensemble du sujet du commerce en ligne, c'est de se dire qu'on est face à une transformation qui est profonde de la manière dont les gens achètent des produits, qu'on le veuille ou non. Les gens, de plus en plus, achètent des produits sur Internet. Et donc, je pense que il est pour moi illusoire de se battre contre l'implantation d'entrepôts logistiques. Pourquoi ? Parce que c'est pratique, parce qu'il y a un service client qui est souvent de très bonne qualité comparé au commerce physique, qui a une livraison rapide et qu'en plus, on a souvent accès à une gamme de produits qui est extrêmement large et qu'on ne retrouve pas forcément dans les commerces physiques. Ce dont il faut avoir à l'esprit, c'est que vous achetiez vos produits chez Carrefour ou que vous achetez vos produits chez Amazon, in fine, ça change pas énormément de choses. Si on devait dire Amazon c'est des méchants et on veut pas d'eux, qu'est-ce qu'ils feraient ? Ben, ils s'implanteraient en Belgique, ils s'implanteraient en Italie, ils s'implanteraient en Espagne, ils s'implanteraient au Royaume-Uni. Et donc, je pense qu'il y a quand même un sujet un peu de concurrence entre les différents pays et on a plutôt intérêt à ce que les entrepôts qui vont livrer des Français soient situés sur le territoire national et qu'ils emploient des emplois français.
En ce qui concerne le projet d'Amazon à Fournes, je découvre que les promesses d'emploi ont chuté de manière vertigineuse en un an. Quand Argan a frappé à la porte de la mairie, il s'agissait de la création de 600 emplois. Progressivement, ce chiffre a baissé, centaine après centaine. Aujourd'hui, les documents officiels n'annoncent plus que 150 emplois créés. Dans mes recherches, j'exhume une note d'analyse du secrétariat d'État au numérique, datant de novembre 2019. le constat est accablant. Pour un emploi créé par Amazon, entre 2 et 3 emplois sont supprimés dans le commerce de proximité. Mais le député, lui, n'en démord pas.
Je pense qu'il n'y aura aucun mal à trouver des personnes qui sont volontaires pour aller travailler chez Amazon. Personne n'est forcé à aller travailler chez Amazon, il n'y a que des gens qui sont volontaires. Je sais pas, moi j'imagine que les gens quand ils commandent sur Amazon, ils commandent plutôt en fin de journée, de 18h à 22h, donc vous avez plus besoin de gens qui soient à ce moment-là, mais pas forcément tout au long de la journée. Donc voilà, après ça correspond au business model du commerce en ligne. Donc effectivement, il peut y avoir des horaires qui sont décalés, mais ça correspond aussi parfois à des volontés de certaines personnes. Et puis, c'est pas dégradant de faire de l'emploi décalé. Moi-même, j'ai pu en faire et ça peut aussi apporter un équilibre de vie qui peut satisfaire.
Sur place, pour l'instant, il n'y a rien.
Je suis enfin sur place avec Vincent Nouzille. Il habite là depuis 22 ans. Et fait partie de la poignée de militants qui a décidé de se mobiliser contre l'arrivée d'Amazon.
Nous sommes à la sortie de l'autoroute, dans un paysage de vignobles, un paysage avec une vue à 360 degrés sur un secteur un petit peu en hauteur, donc exposé au vent. Aujourd'hui, c'est un jour de grand mistral. Si vous regardez à gauche, vous avez le village de Fournes. Et de tous les autres villages environnants, Saint-Hilaire-de-Zilan, village de vignobles. Castillon-du-Gard, village remarquable. Puis après, évidemment, Rémoulins et le Pont-du-Gard, vers Pont-du-Gard, on a là une série de villages qui vont tous être impactés directement, à la fois au niveau du paysage, de la circulation routière et de l'empreinte de ce centre de tri qu'un certain nombre d'élus ont voulu implanter ici. Et la seule trace de ce projet aujourd'hui, c'est un panneau qui indique le permis de construire. Et sur ce panneau, il y a plusieurs choses intéressantes. La première, c'est que ce permis de construire a été livré le 25 septembre 2019. Donc, c'est assez récent. La deuxième, c'est que ce permis a été accordé non pas à Amazon, mais à un promoteur d'entrepôt logistique qui s'appelle Argan, qui est basé à Neuilly-sur-Seine. Il y a son adresse sur le panneau. Ça montre qu'Amazon avance toujours masqué. Amazon ne vient jamais en son nom propre. Amazon n'est jamais venu ici pour expliquer aux habitants ce qu'ils voulaient faire avec ce territoire. Il n'y a aucune prise. C'est comme si c'était hors sol. Et ils avancent masqués. Ça veut dire que le promoteur, Argan, vient là, fait toutes les démarches administratives et fait des promesses d'emploi, de taxes locales pour les communes, pour les collectivités locales, et tente de séduire les habitants. Mais au fond, il n'engage que lui-même. Amazon ne s'engage jamais à rien.
Avec lui, je découvre aussi que le projet n'a absolument rien à voir avec le petit bâtiment discret auquel s'attendent certains habitants que j'ai rencontrés dans le village.
La deuxième chose intéressante sur ce panneau, c'est qu'on a la superficie, la hauteur de ce bâtiment. On est sur une parcelle qui fait 13 hectares 7, donc 14 hectares disons. On sait que la surface de plancher sera de 38 848 m², c'est-à-dire 40 000 m², ça fait 4 hectares de bâtiment. Il faut s'imaginer un bâtiment qui fera environ 400 mètres de long. 400 mètres de long, c'est juste gigantesque. Il y aura 113 portes de chargement de camions. Le promoteur a évoqué le fait qu'il y aurait environ 3000 véhicules, nuit et jour, hein, 24 heures sur 24, qui passeront dans cet entre-détri. Ça fera à peu près 100 mètres de large. Et surtout, ça fera plus de 18 mètres de haut. C'est-à-dire l'équivalent de 5 à 6 étages. Presque aussi haut que les arènes de Nîmes, avec un monstre qui sera presque 4 fois plus grand, plus long que les arènes de Nîmes. Et surtout à 4 km du pont du Gard, qui est un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO, grand site de France. Donc vous aurez des millions de visiteurs, lorsqu'on leur indiquera sortie pont du Gard, la première chose qu'ils verront, et la dernière chose qu'ils verront en quittant ce territoire, ce sera ce monstre d'Amazon. Évidemment qu'on a séduit un certain nombre d'élus locaux, le promoteur en premier, avec des chiffres, vous voyez, on leur a murmuré dans l'oreille 1200 emplois, 150 000 euros de taxes, et sur ces seuls arguments, eh bien, on a donné des feux verts à ce projet. Et quant aux taxes, les taxes locales, les communes n'ont reçu aucun document qui engage, que soit le promoteur, et encore moins Amazon, à donner tel ou tel montant de taxes foncières et de taxes locales. Donc, ces chiffres sont abstraits. Alors évidemment, dans une région qui est considérée comme assez pauvre, dans des villages qui ont été touchés par une forme de désindustrialisation, avec un chômage fort, ces promesses dites d'emploi on puisse séduire. Donc, quelques communes ont décidé pour l'ensemble du territoire. Une aberration complète au plan de l'environnement, du paysage et de l'économie locale. Sans compter le fait que cette implantation ici du centre d'Amazon contribue à détruire des emplois et non pas à en créer. On a regardé d'ailleurs de manière plus précise quelle est la qualité des emplois proposés par Amazon. 90% d'opérateurs, ce sont des manutentionnaires. On sait que ce sont du travail posté d'environ 6 heures par jour. Parce qu'au-delà, il faut donner des pauses et que c'est compliqué. On sait, parce que la plupart des sites d'Amazon fonctionnent comme ça, qu'au moins un tiers, c'est de l'intérim. Et une grosse partie, c'est du ZDD. La partie d'emploi qui n'est pas précaire est extrêmement faible. Sur le principal site d'Amazon en France, à Brétigny-sur-Orge, eux-mêmes ont expliqué qu'ils avaient 2/3 d'intérim en période creuse, 2/3 d'emplois précaires sur le principal site d'Amazon en France. Et on sait surtout que Amazon veut robotiser la plupart de ses sites. Sous-entendu, d'ici 5 à 10 ans, il n'y aura même pas 150 emplois, il en suffira peut-être de 50 pour faire tourner le site, et encore. On doit privilégier les circuits courts, le commerce de proximité, les centres-villes. Ici, toutes les villes aux environs, Avignon, le centre-ville est en train de mourir, Nîmes, à 20 km, le centre-ville est en train de mourir, parce qu'il y a eu une explosion des surfaces commerciales. Et un beau jour, c'est les géants aujourd'hui des hypermarchés comme Carrefour, comme Casino, comme d'autres, qui vont bientôt être bouffés par Amazon. Donc il y a toujours un prédateur qui est plus gros. Amazon, c'est le plus gros mondial. Amazon, il vise l'hégémonie du marché mondial. Donc le laisser s'implanter ici, peut-être on va nous dire, bah, s'il n'est pas là, il ira ailleurs. Mais dire non à Amazon, être David contre Goliath, le petit caillou dans la chaussure d'Amazon, c'est un enjeu important. Si on gagne cette bataille ici, d'autres peuvent gagner d'autres batailles ailleurs. C'est pour nous, c'est très important.
L'affronte de quelques habitants déterminés a fait tache d'huile. La pétition lancée en plein confinement atteint aujourd'hui 28 000 signatures. La crise sanitaire vécue par les Français a sans doute rappelé la nécessité de préserver l'environnement et de privilégier le commerce de proximité. Autant de points essentiels de la transition écologique annoncée par le gouvernement. L'opposition au projet a ensuite gagné l'Assemblée nationale. Le 2 juin, la députée Delphine Bateau dépose une proposition de loi demandant un moratoire de 2 ans sur la construction de ces plateformes logistiques. Le texte est soutenu et co-signé par la députée du Gard, Annie Chapelier, du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité.
Si vous me posez la question à titre personnel, je ne vois aucun intérêt positif. Je n'utilise jamais Amazon. Je vis très bien sans. C'est quelque chose qui est apparu très récemment dans la vie des Français. Donc, personnellement, je m'en passe très bien. Je peux très bien comprendre que le téléachat, le e-commerce sont quelque chose qu'il faut peut-être développer parce que ça correspond tout simplement à notre époque. Par contre, on ne peut pas laisser cela aux mains d'une seule et unique personne, en l'occurrence là Amazon ou un autre géant comme Alibaba qui est quasiment aussi important, ou d'autres grands également. Et il doit y avoir une véritable réflexion sur le e-commerce. La proposition de loi que nous avons menée dans notre groupe, qui est portée par Delphine Bateau, justement a mené la prise en compte d'une réflexion, en tout cas, du développement potentiel que l'on peut faire du e-commerce de proximité, parce que ça existe. Il y en a de plus en plus qui se développent, des initiatives locales qui correspondent à cette demande du public et qui en même temps respectent et l'environnement et le lien social. La mairie de Fournes, le maire soutient ce projet car lui il croit au développement économique à travers ce type de projet. C'est bien pour cela qu'il faut réellement que nous mettions en place ce moratoire qui permet justement de laisser la place au débat, parce que là-dessus on voit bien que les populations ne sont absolument pas d'accord. Certains soutiennent ce projet pour des intérêts purement personnels, hein, parce qu'ils vont vendre les terres qui vont être transformées, et peu leur importe la façon dont elles sont transformées, du moment qu'ils obtiennent un bon prix de ces terres. Forcément, les personnes qui vendent leurs terres voient midi à leur porte, j'ai presque envie de dire. C'est dans l'ordre des choses. Le problème n'est pas réellement là. Le problème est que les personnes qui sont en capacité de vendre cela peuvent passer outre l'intérêt général.
En sortant de mon rendez-vous avec la députée, je vois une nouvelle raison d'essayer de joindre le maire de Fournes, Thierry Boudinot.
Mairie de Fournes, bonjour.
Je découvre, derrière les euphémismes de la députée, qu'un possible conflit d'intérêts implique le maire.
Oui, bonjour, pourrais-je avoir le maire, s'il vous plaît ?
Un membre de l'association d'habitants a d'ailleurs porté la procédure au pénal et l'enquête est en cours.
Ah, il n'est pas à la commune actuellement.
En résumé, Thierry Boudineau serait propriétaire de terrains sur les lieux du futur entrepôt et aurait eu financièrement intérêt à ce qu'Amazon s'installe.
J'ai envoyé plusieurs mails, j'ai téléphoné plusieurs fois, j'ai toujours pas eu de retour.
Mais cette fois encore, je n'aurai pas de réponse du maire. Ce que je sais, c'est qu'on a le droit de spéculer sur le foncier, mais pas d'être en situation de conflit d'intérêts. Encore un caillou dans la chaussure d'Amazon. Si l'instruction aboutit à une condamnation, le permis de construire pourrait être frappé de nullité.
Il faudrait voir ce que ça génère comme pollution.
Mais en attendant, là, je poursuis mes rencontres avec les riverains.
Voilà, il y a des particules qui se déposent, après...
Il y a une vigneronne en bio qui se demande comment elle va faire avec la pollution liée au passage de centaines de camions par jour.
Alors, Patrick Genet...
Il y a aussi Patrick Genet, il est apiculteur. Et pour lui, l'arrivée d'Amazon aura des conséquences tout à fait concrètes.
Et donc, je suis apiculteur sur cette commune depuis 1993, et j'ai des ruches qui sont à 900 mètres à vol d'oiseau, à vol d'abeille, de la zone de la Pale sur lequel il est prévu une plateforme logistique destinée à l'exploitation par Amazon. On élève des abeilles, on élève notamment des rennes. Donc on a besoin pour ça de la ressource. La ressource, c'est l'eau, le pollen et le nectar. L'eau, on l'a à côté avec le gardon et un peu d'irrigation. Mais la ressource, c'est l'ensemble des plantes sauvages qui sont autour de nous. Donc, se trouvant à 900 mètres de la zone de la Pale, si on se met à détruire et à bétonner ou asphalter le territoire de la Pale, et il faut savoir que la Pale, c'est 51 hectares, c'est pas simplement 14 hectares qui vont être occupés par le projet d'Argan. C'est 51 hectares qui sont prévus en zone industrielle. 51 hectares qui sont une zone agricole. Donc si cette zone, petit à petit, on la rogne avec de l'industrie ou des plateformes logistiques, on nous empêche d'avoir cette ressource, on nous prend de la ressource. Et aujourd'hui, tel que c'est important parce qu'il nous reste tellement peu que le peu qu'on va nous prendre, ben, ça nous coupe l'herbe sous les pieds pour faire de l'élevage et permettre à ces jeunes apiculteurs de continuer leur profession. Et donc, rien que moi tout seul avec l'activité que j'ai là, c'est pas beaucoup d'emplois, mais ce sont 8 apiculteurs avec moi qui se développent. Peut-être d'autres emplois à l'avenir si on leur permet de se développer. Et si chacun a la même intensité, la même fonction et le même soin, eh ben, je pense qu'on a la même valeur, si ce n'est plus que des projets comme ceux d'Argan.
En tant qu'ingénieur, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le manque de cohérence, de stratégie, de réflexion en termes de développement territorial sur notre communauté de communes.
Ce monsieur s'appelle François-Gaël Lataste, il est agronome, riverain du futur entrepôt, et son travail, c'est d'aider les agriculteurs à se développer. Si Amazon devait faire machine arrière face à la détermination des habitants, François-Gaël Lataste a une idée très précise d'un meilleur usage du terrain.
Alors nous, on n'a jamais été contre les emplois. C'est évident qu'on a envie qu'il y ait du développement économique sur notre territoire, que les gens qui n'ont pas d'emploi actuellement sur le territoire, et il y en a, en trouvent.
Les élus locaux commencent à regarder avec beaucoup d'intérêt les travaux de cet ingénieur.
Donc on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à la place plutôt que cette plateforme logistique bétonnée avec des emplois peut-être moindres, moins ambitieux, mais dans tous les cas plus qualitatifs et qui ont du sens par rapport au territoire, qui sont cohérents avec ses atouts et pour son développement. Aujourd'hui, le projet, l'idée qu'on en a, ça serait de créer une ferme, alors en permaculture, en agroforesterie, installer soit directement des agriculteurs sur des surfaces, à savoir que pour faire du maraîchage et pour être rentable, on n'a pas besoin de très grosses surfaces, quoi. 3-4 hectares, ça peut être rentable, voire même moins dans certaines conditions. Voire créer une pépinière pour des agriculteurs, donc des jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer, qui voudraient se tester d'abord. On pourrait leur proposer, par exemple, 1 ou 2 hectares avec du matériel à disposition pour qu'ils puissent mettre en place un peu leur fonctionnement sur leur future ferme. Également dans le projet, nous, l'objectif, c'était d'approvisionner en fruits et légumes bio les cantines scolaires de la communauté de communes, du Pont du Gard, à minima, aussi les résidents et les touristes qui pourraient passer à travers un magasin de vente directe des produits, et puis aussi une dimension sociale, notamment pour accueillir des publics en difficulté. Et donc il y a aussi cette dimension voilà, d'intégration sociale qu'on voudrait en faire, et un lieu d'éducation pour que les publics, à la fois les riverains, les touristes et les écoles, puissent venir faire des ateliers d'enseignement et de sensibilisation à l'environnement, à l'agriculture. Et on diffuse ce projet auprès des élus locaux qui sont de plus en plus intéressés aussi par cette alternative. Ce qu'on arrive à créer de manière certaine, on va dire, c'est une trentaine d'emplois fixes, plus des emplois saisonniers qui pourraient faire monter rapidement une cinquantaine d'emplois. Et après, il peut y avoir des emplois indirects liés justement aux activités sociales et autres que là, on n'a pas nous chiffrés, plus les activités, les emplois de retombées sur le territoire en termes d'impact touristique qui apporterait de l'emploi. Je pense que la centaine d'emplois, si on regroupe tous les projets autour, on pourra y arriver.
Tu es si fragile, tu es si frêle. Tu es si fragile, un agneau.
C'était Amazon, la fronde au pont du Gard, un reportage de Rémi Dibowski-Douat réalisé par Cécile Lafont. Merci à Vincent Nouzi, à Patrick Fertil, à Patrick Genet, à François Gaël, Lataste, à Damien Adam et à Annie Chapelier. C'est Mélissa Foust et Roxane Poulain, les attachés de production des Pieds sur Terre.
Le vent aère ma chanson, le vent aère l'air que j'ai respiré, est fait de bémol et de dièse. J'ouvre les fenêtres, le vent peut entrer. Vent, venez, veuillez entrer. Bienvenue vent, ami de la pluie, qui elle aussi dans ma chanson, il pleut d'écoute l'aide.